Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio chaque jour du lundi. Au vendredi, vous pouvez commenter l'actualité, nous faire part de vos analyses sur les sujets du moment, c'est le principe de l'émission. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, la situation au Mali, le président du Haut Conseil islamique Mahmoud Diko avait appelé à manifester ce vendredi pour exiger la vérité autour des différentes attaques qui touchent le Mali et dont la dernière à Ouagadougou reste la plus mortelle. Un appel à manifester plutôt suivi puisqu'ils étaient des milliers vendredi à être descendus dans les rues de la capitale malienne Bamako. Face à cette contestation, le président Ibrahim Boubacar Keïta a appelé à l'union sacrée et à ne pas jouer le jeu des terroristes. Alors qu'en pensez-vous? Les religions ont-ils raison d'appeler à manifester? L'État est-il à la hauteur des inquiétudes de l'opinion malienne? L'antenne est à vous sur Africa Radio. Pour en parler, nous serons en ligne avec Tiambel Gimbayara, directeur de La Voix du Mali. Pour nous faire part de vos analyses, le numéro c'est le 33 1 55 07 58 00. Mais je vous invite à privilégier le WhatsApp pour cette émission. Notez bien notre numéro WhatsApp, vous pouvez nous envoyer des messages. On essaiera de vous rappeler si vous nous demandez de vous rappeler pour le direct. Et le numéro WhatsApp, vous êtes prêts? Notez-le, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. Mais avant cela, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter quelques-uns de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonsoir Stéphanie. Bonsoir à tous les auditeurs d'Africa Radio. Alassane Ouattara, il est en train de... Bon, à tout moment, quand il accorde une interview, il parle un peu dans un sens un peu... Enfin, il met un peu du suspense sur sa position sur les élections prochaines en 2020 en Côte d'Ivoire. C'est comme si, il faut que je surprenne tout le monde, donc je ne peux pas tout dire. Bon, il faut attendre. Mais tout le monde sait qu'il va briguer un autre mandat. Et c'est son souhait, c'est sa soif. Moi, mon problème, c'est au niveau de la jeunesse ivoirienne aussi. Ivoirienne et aussi africaine. Alassane Ouattara, quand il fait ce discours, il dit, voilà, il faut que le pouvoir soit transmis à la jeunesse. Donc il y a un transfert du pouvoir à la jeunesse, parce que la jeunesse, qui est l'avenir de demain, qui va mieux gérer peut-être les choses, vu l'énergie qu'elle a. Il faut que les Ivoiriens et les jeunes africains comprennent que ces vieux-là ne sont pas prêts à laisser le pouvoir à la jeunesse. Et donc s'il y a un jeune qui veut faire face à eux, il faut le soutenir. Voilà mon message de ce soir, Stéphanie. William.
Bonjour, chers amis auditeurs d'Africa Radio. Brice, à Paris. Je viens d'avoir la chance, bon, il est un peu tard, de voir une émission très intéressante. Je crois qu'une rediffusion sur LCP. Alors, je ne sais pas pour faire de la pub, mais bon, sur LCP, sur les décolonisations, c'est un premier volet sur l'Afrique subsaharienne. Voilà, sur droit de suite. Voilà, je invite tous les auditeurs de podcaster cette émission-là, non pas pour faire concurrence à Africa Radio, c'est absolument pas l'idée, mais c'est que voilà, c'était vraiment quelque chose de constructif, avec un débat en fin de reportage. Voilà, c'était intéressant et c'était pour inviter tous les auditeurs, ceux qui veulent en tout cas, à aller voir cette émission en podcast et voir un petit peu les travers de la décolonisation. Quelque chose qui n'était pas tiré par les cheveux en essayant d'excuser la France. Voilà, quelque chose d'adroit juste, avec des invités très mesurés. Voilà, allez, salut à tout le monde.
Ma très chère Hartmann, bonjour. Il est tout à fait normal que les guides religieux interpellent les politiques au Mali. Parce que le Mali est un pays à dominance musulmane. Et donc, les guides religieux ont une certaine influence sur la population. Mais en même temps, j'ai dit aux Maliens de faire très attention. Il ne s'agit pas ici de chasser les forces étrangères. Parce que, souvenez-vous, que ce sont ces forces étrangères-là qui ont permis au gouvernement de garder, si on veut dire, l'intégrité du territoire. Sinon, les rebelles, les moudjahidines d'aller occuper le Mali au début de la guerre. Mais en même temps aussi, moi j'interpelle le gouvernement malien parce que c'est à eux de régler le problème du Mali avec les terroristes. Parce que le président Aboubacar Keïta doit être vraiment, il doit dire la vérité aux Maliens. Voilà, il faudrait, parce que le Mali c'est un pays souverain et donc c'est à lui de prendre vraiment ses responsabilités. Idriss, bonne journée.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui dans le journal des auditeurs, l'offensive des religieux au Mali. Pour participer, 33 1 55 07 58 00. Plusieurs milliers de femmes et d'hommes sont descendus vendredi 5 avril dans les rues de Bamako à l'appel de l'influent Imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique, mais aussi du shérif de Nioro. On ne va pas l'oublier, Cheikh Mbouye Aïdara, un appel lancé pour dénoncer la malgouvernance incarnée selon les manifestants par le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Soumaïlou Boubeï Maïga. On en parle avec notre confrère par téléphone, Tiambel Gimbayara, bonjour.
Bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour aux auditeurs de Africa Radio.
Merci d'être avec nous, hein, Tiambel. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication du journal La Voix du Mali. Première question, Tiambel. Est-ce qu'on peut dire que face finalement une opposition politique qui ne semble pas convaincre, les Maliens mécontents se tournent vers les religieux comme Mahmoud Diko?
Merci Stéphanie. Il faut s'incliner d'abord avant tout devant la mémoire de ceux qui sont tombés pour défendre l'intégrité du Mali depuis la crise de 2012, civils et militaires, amis du Mali et surtout soldats maliens. Les derniers événements de Ouagadougou et de Djoura mettent en plein la question sécuritaire au centre du jeu. Quelle est la situation avant ces événements-là, avant l'appel de Mahmoud Diko pour parler de cette crise? Il faut reconnaître que il y avait une situation sur le Mali où il y avait un dialogue politique. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, avait reçu le chef de file de l'opposition, à son initiative d'ailleurs, Soumaïla Cissé, il l'avait appelé et entrepris un dialogue politique pour désamorcer la crise politique née des élections et après les élections. Et ce processus en cours, patata, cet événement malheureux, regrettable, condamnable à plus d'un titre intervenu, donc le Mali devenait encore plus que jamais sous les feu de l'actualité et tous les regards se tournaient vers le Mali. C'est normal que les populations éprouvées en telles circonstances et qui ont perdu des parents soient choquées et que la nation tout entière partage le deuil de ces victimes, de ces exactions de Ouagadougou et de Djoura. Mais maintenant, la classe politique en elle-même, quand elle entreprend une négociation ou un dialogue politique, ne peut pas, l'opposition ne peut plus encore jouer son rôle d'alternative au pouvoir. C'est des voix, c'est des choix. Et certainement, c'est dans cette brèche-là que s'est engouffré l'imam Mahmoud Diko.
Est-ce que selon vous, il a des ambitions politiques, le président du Haut Conseil islamique?
En tout cas, le discours que Mahmoud Diko tient est loin d'être un discours de la société civile. Jadis, on a vu cette... D'abord, il faut rappeler qu'il ne fait pas l'appel au nom du Haut Conseil, il le fait en son nom propre. Et il y a un fondement, il y a une base consistante à cet appel-là. C'est constitué pour la plupart des talibés du shérif de Nioro, Bouye Ouldouchek, qui est représentatif au-delà du Mali et surtout des pays frontaliers. Les talibés de Bouye sont connus comme étant des adeptes qui sont de par le monde. Donc, ça c'est une réalité. Mais Mahmoud, du coup, ce discours qu'il tient aujourd'hui, la démission du Premier ministre, la dissolution du gouvernement, d'autres actions, le départ de la France, de l'armée française, le départ de l'AMINUSMA et bien sûr qui se joignent aux difficultés quotidiennes des Maliens, la fin des grèves, la fin du délestage et fin d'autres préoccupations que connaissent les Maliens à cette date-là, sont loin d'être un discours religieux, un discours de la société civile, un discours d'influence, c'est plutôt un discours politique. Et là, l'imam sort de son rôle, enlève son turban, dépose sa canne, ne tient plus sa koutouba, son discours devant des fidèles pour les appeler à pratiquer cette religion de Dieu. Encore que Mahmoud Diko était wahhabite, connu, est reconnu par ses pratiques et par son approche, même s'il essaie de diluer ça avec cette alliance avec Bouyé et d'autres, c'est connu et c'est reconnu. C'est pas de cet islam-là que se réclame l'ensemble, la majorité des Maliens. C'est un autre islam que nous connaissons, qui n'est pas du tout violent, qui n'impose pas un certain nombre de mérites dans la rigueur et dans la dureté. Et vraiment, il sort de son rôle. Effectivement, j'affirme que Mahmoud Dicko aujourd'hui n'est plus dans son rôle. S'il veut faire de la politique, il dépose sa canne, son turban et qu'il crée son parti politique.
Merci, Tiamel Guimera, pour cette introduction. Je vous demanderai tout à l'heure, justement, si l'État, le pouvoir malien, est, lui, à la hauteur de l'agglomération, de l'accumulation même des mécontentements. Mais on va se diriger vers le standard retrouvé, Amadou. Amadou, bonjour.
Bonjour, Stéphanie. Merci, Radio Africa, de me passer la parole. Avec plaisir, effectivement, j'interviens sur ce côté-là. C'est-à-dire que quand il s'agit du Rwanda, il a eu les Tutsis sont massacrés. Bon, ça c'est le peuple Massou Diallo, peuple mais sénégalais. C'est-à-dire qu'en même temps, le problème c'est pas une religion. Il y a des musulmans qui utilisent comment dire la religion pour des fins politiques. Or que la religion et les religieux et spirituels, la communauté musulmane, c'est pour cela que je dis que le califat, ce n'est pas un président de la République, c'est quelqu'un qui représente le pouvoir religieux. Donc il ne faut pas utiliser la religion musulmane pour des fins politiques. Et si un musulman mort, c'est un autre musulman qui prie sur lui. Donc c'est comme une famille. C'est à les musulmans de faire leur pouvoir autoritaire. Est-ce qu'on peut représenter universellement, mais de ne pas se servir ce qui appartient aux politiques citoyennes constitutionnelles.
Vous êtes un fervent défenseur de la laïcité, mon cher Amadou.
Mais bien sûr, mais c'est effectivement, il y a la liberté religieuse. Mais il faut assumer ta responsabilité. Mais il ne faut pas utiliser la politique. Il ne faut pas utiliser comme ta religion pour des fins politiques.
Mais alors, vous avez commencé votre propos en parlant, en disant « je m'appelle Diallo, je suis Peul ». Ça vous inquiète, les différents messages à caractère ethnique, voire manifestations hein, carrément qu'on voit ici et là ?
Oui, non, mais effectivement, parce que c'est ce qui se passait à Paul Kagame, à Rwanda, là, c'est aussi politique, parce qu'on ne dit pas la citoyenneté. La citoyenneté, c'est-à-dire que ce n'est pas l'ethnicité. L'ethnicité, c'est la famille. C'est plutôt, comment dire, national. Ce qui a été fait, c'est l'injustice sociale. Mais les politiques, ils sont responsables. Parce que tous les citoyens, ils sont égaux, égales, doivent voter, et se comprendre pour leur territoire. La politique, elle est territoriale, elle n'est pas universelle. La religion, elle est universelle.
Bien sûr.
C'est pour cela qu'elle ne peut pas prendre la place de la politique.
Merci, Amadou, hein, de votre commentaire. Merci beaucoup, Amadou. On va écouter Camara. Camara, bonjour.
Allô ?
Oui, bonjour, Camara.
Bonjour, madame.
Bonjour Monsieur Camara, vous...
C'est pas Camara mesdames, c'est Monsieur Manjou.
Ah pardon Monsieur Manjou, alors ouais, on a des petits problèmes de standard, vous avez rendu compte, on n'a pas pu vous rappeler, vous en êtes rendu compte plutôt.
J'étais obligé de changer l'identité, vous ne voulez pas me prendre, je ne sais pas
pourquoi. Non Manjou, calmez-vous, il n'y a rien à voir avec votre identité, on a un problème de standard.
Madame, j'étais le premier à appeler, on me dit non, on vous rappelle.
Oui c'est ça, et on n'a pas pu vous rappeler parce qu'on a des problèmes de ligne. Voilà, ne pas tomber comparer. Dans la théorie du complot permanent, mon cher Manjou.
Non, il n'y a pas une théorie. Il y avait une autre émission sur les Malais, j'appelais, on m'a
invité. Ça arrive, des fois,
vous passez. J'ai changé d'identité.
Bon, allez-y, la parole est à vous, mon cher Manjou.
Madame, vous dites l'appel religieux, ce n'est pas un appel religieux, c'est un appel patriotique, en fait.
L'offensive des religieux, l'appel à manifester est fait par les religieux, mon cher Manjou. Entre autres, hein, d'ailleurs, puisqu'il y a certains partis qui se sont liés à cet appel.
C'est un appel patriotique. Mahmoud Dicko, il n'a pas appelé en tant qu'imam, il a appelé en tant que malien, citoyen malien, pour dénoncer la passivité de ce gouvernement de l'armée de la France. C'est ce qui a été fait. Parce que si vous voyez.
Vous comprenez, vous finalement, vous dites face à la situation, c'est important que toutes les forces vives de la nation se mobilisent, c'est ça?
Ah ben sûr, c'est pas qui est à notre place.
Manjou, on ne vous entend pas.
Allô, vous m'entendez?
Voilà, là on vous entend mieux, allez-y.
Si les forces vivent, elle ne sait pas qui le fera à notre place. C'est ça la question. Il y a eu nos soldats qui sont morts, à Djoura ou je ne sais pas où là. Il y a eu les massacres de la population civile, c'est pour dire stop. Stop à ces massacres, stop à cette manigance-là. On sait très bien que Mahmoud Dicko est dans les viseurs de la France, madame, vous le savez très bien.
Ah bon?
Donc, on le fait, parce qu'on sait comment vous traitez le sujet. Appel religieux et votre le laudateur de Ibrahim Bouaka qui est à côté de moi qui se permet de dire Wahhabi. Ça commence toujours comme ça. Après, on va dire c'est un terroriste. Après, on va dire il est allié au groupe terroriste. Non, il dénonce tout simplement la passivité du gouvernement, le rôle que la France joue actuellement, on ne comprend pas. Et j'aimerais dire à Idriss aussi, je suis d'accord avec lui, le Mali c'est un pays souverain. Il faut que le président dise la vérité au peuple. Mais si la force étrangère parle du Mali aujourd'hui, franchement, on sera en paix.
Mandjou, justement, j'allais vous poser la question. Vous vous associez au slogan qu'on a vu, hein, qui appelle le départ, qui appelle au départ des forces étrangères du Mali. C'est bien ça?
Le départ de la France, madame, parce qu'aujourd'hui, on a plus de morts avec la présence française qu'avant l'intervention française. Il y a un problème. Ça, il faut le reconnaître. À quoi ça sert leur intervention? Là, aujourd'hui, on est vacciné, on sait quoi qu'il arrive, il va avoir des morts, mais qu'ils partent. Qu'ils partent, on aura une solution. On aura une solution. On ne peut pas supprimer notre sécurité avec une force étrangère. C'est pas possible. Vous avez été à Gao, vous-même, tout récemment. Vous avez vu la cohésion des.
Ah, j'ai vu. Alors, dites-vous qu'à Gao. Alors, j'ai vu effectivement Barkhane, la base militaire de la MINUSMA et Barkhane, mais j'ai vu aussi, surtout, les forces armées maliennes. Qui essayait d'assurer notre sécurité. Merci beaucoup, Mandjou. Vous voyez, Mandjou, hein, vous avez la parole, bien sûr, sur Africa Radio. Mandjou, hein, qui dit finalement, voilà, Mahmoud Diko a raison d'appeler à manifester. On est mécontent de la façon dont est gérée la crise. Tiens, Balguimara, je viens vers vous dans quelques instants pour une réponse. Avant cela, quelques messages. Alors, énormément de messages sur WhatsApp, je vous en remercie. Il y a Sansi qui nous dit hein, le président malien est complice de la division du Mali. Il ne dit pas la vérité au peuple. On a des messages du côté du Mali, d'ailleurs. C'est Diawara, depuis Bamako, qu'on salue. Il dit « Je suis d'accord avec l'analyse de Tiambel. Mahmoud Diko est l'autre bras des terroristes djihadistes au sud, comme Koufa, Amadou Koufa au centre. » Et puis, il y a Antoine, du côté d'Abidjan, qui me dit « Je suis pour les manifestants et les guides religieux. » Ah, les guides religieux, le président doit tenir un discours d'apaisement et non au départ des forces. Ça mènera vers un chaos total. Voilà, un WhatsApp qui vient de planter, mais on le ouvre tout de suite. Oh, Tiambel, vous avez peut-être été interpellé par notre auditeur Mandjou qui dit « Finalement, hein, les religions interviennent parce que l'État n'est pas à la hauteur. » En appelant à l'union sacrée, hein, en estimant que les manifestants faisaient le jeu des terroristes, est-ce que le président Ebeka n'est-il pas dans le déni, finalement, Tiambel Guimbayara, dans le déni des inquiétudes qui touchent les Maliens?
Non, je comprends la colère de Mandjou et l'exaspération, la colère des auditeurs, mais qu'il se calme un peu. Je ne veux pas traiter de mots déplacés. Je donne mon point de vue en âme et conscience en malien. Je suis beaucoup plus touché par cette crise que lui. Moi, j'ai perdu une cousine là-dedans, mais cela ne veut pas dire que je ne dois pas prendre la terre pour responsable de cela. Le problème, il est complexe. La situation est difficile. Nous sommes, depuis l'appui de Barkhane, la mutation de l'opération Serval en Barkhane et la MINUSMA qui aide le Mali, le centre est resté une zone sécuritaire difficile à compenser. L'État n'arrive pas à sécuriser les populations. Nous sommes face à cette réalité. Le président le reconnaît, il va sur le terrain, il constate, il remodule son dispositif sécuritaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Et chacun doit se poser la question à son niveau. L'État malien doit se poser cette question autant que la communauté internationale, la MINUSMA et les forces Barkhane qui interviennent au Mali. Nous sommes dans un conflit complexe où l'ennemi n'est pas connu, il vient taper. La nuit, les populations aussi doivent s'impliquer pour aider l'armée malienne à regagner confiance, à se battre contre cette nébuleuse. Mahmoud Diko, si on était dans des conditions normales, ne serait pas en liberté aujourd'hui. Il faut dire la vérité.
Mais Tiambel, vous dites finalement on doit impliquer les populations. Il y a certaines populations qui se sont impliquées et malheureusement qui ont subi les foudres aussi des terroristes. Est-ce que l'État malien a suffisamment protégé ces populations?
Non, il va de soi quand même que s'il y a des attaques et que les morts se comptent, on double, on triple le nombre de victimes, et la situation n'est pas satisfaisante. On ne peut pas s'en satisfaire. Autant l'État malien ne peut pas s'en satisfaire de cela que la communauté internationale aussi ne doit pas s'en satisfaire. Mais c'est l'État malien qui est à la première ligne, qui est premièrement responsable de la sécurité des Maliens. Et le gouvernement doit prendre d'autres mesures pour conforter cela, aider cela. On a dissous Adama Ampansago, mais il faut aussi dissoudre le MNLA, il faut dissoudre toutes ces forces, négatives qui sont tapis dans l'ombre, qui sont prêts à se battre contre les Maliens qui vont ôter la vie des civils sans défense. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Ces gens doivent être arrêtés, jugés tout comme leurs complices devant la justice malienne, tout comme leurs complices Mahmoud Diko. Il ne fait que prolonger la complicité de ces forces djihadistes à Bamako. en affaiblissant l'État aujourd'hui, en sortant tant de milliers de gens, en les mettant dans la rue aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il favorise le lit aux djihadistes de l'autre côté. Oui. Ça, ce n'est pas acceptable. Ça, il faut le dire. C'est mon point de vue. Je reste là-dessus et je suis prêt à le défendre partout. Cela est nécessaire.
Merci, Tiambel, de le faire ainsi. Merci beaucoup.
Oui,
allez-y.
C'est là, il doit aussi l'entendre que tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Si Mahmoud Diko veut faire de la politique, il se débat de son plus loin. Tout simplement, c'est aussi clair et simple que ça. Et surtout qu'il est rentré maintenant dans les rangs. Tant mieux pour lui.
C'est votre opinion, mon cher Tiambel, et vous avez bien le droit, bien sûr, de l'exprimer. Alors, beaucoup de monde du côté du standard. On va donner la parole aux auditeurs. On commence avec Omar. Omar, bonjour.
Allô, oui, bonjour, madame Arsman.
Bonjour, Omar. Bienvenue. Vous pouvez rapprocher votre bouche du micro, du téléphone, s'il vous plaît.
Oui,
voilà.
Là, vous m'entendez mieux, là.
Beaucoup mieux.
Oui, je vous appelle, là, parce qu'aujourd'hui, là, ça va pas, je suis pas bien du tout, là. Par rapport au propos de M. Campbell, Digan, excusez-moi.
Campbell Guimbayara, qui disait finalement, voilà, Mahmoud Diko joue le jeu des terroristes à Bamako. Vous n'êtes pas d'accord, dites-nous, Omar. Voilà.
Au Mali, il vient d'avoir plus de 160 morts. Il est normal que le peuple malien sort, manifeste son mécontentement et son mécontentement. Mais c'est tout à fait normal et logique. Les seuls espoirs que nous avons aujourd'hui, ce sont les religieux. C'est pas les gouvernements actuels.
Mais finalement, vous dites, Omar, on ne devrait pas opposer notre esprit soi-disant patriotique, l'Union nationale, à la critique d'un pouvoir contesté.
C'est tout à fait normal et logique. Quand il y a eu 170 morts, après on dit qu'il y a un groupe qui a été dissous. Mais pourquoi on les accuse? On les accuse. Qu'est-ce qu'on veut dire aux Maliens? C'est ces groupes-là qui les ont tués. Mais c'est faux.
Sans attendre, on parlait tout à l'heure, mais évoquait la question de justice, finalement.
C'est un gouvernement irresponsable, Madame Arman. Je suis désolé. Les peuples maliens, ça ne va pas. On n'est pas bien, on est mal. On sort pour montrer au monde entier que ça ne va pas au Mali. Il y a plus de 170 morts. Quand M. le président Ibrahim Boubacar Keïta a pris l'avion présidentiel avec les impôts du peuple malien, des pauvres, pour venir ici dire que je suis Sarli. Et attendez, qu'on se respecte un petit peu, s'il vous plaît. Le Mali, ça ne va pas. Ça ne va pas. Cet endroit de sortir de manifester, il y a eu plus de 170 morts.
Oui, finalement, ça n'a rien à voir avec l'appel des religieux, vous dites, Omar. Que ce soit les religieux ou quelqu'un d'autre, il fallait sortir pour dire non.
Ça n'a rien à voir avec les Arabites, ni avec... Mais non, qu'on respecte le peuple malien un peu.
Merci, Omar. Merci de votre intervention, hein, Omar, qui dit qu'il fallait sortir à manifester et qui a rappelé effectivement que le président Ibrahim Boubacar Keïta était venu à Paris lors de la manifestation après les terribles attentats du mois de novembre en France. Merci, Omar. On continue d'en parler avec les auditeurs de la situation au Mali avec Koulibaly. Koulibaly, bonjour.
Bonjour, Africa Radio.
Bonjour, Koulibaly.
Votre collègue Guimbayara, il n'a pas dit la vérité, comme le monsieur qui vient de dire tout à l'heure. Madame Hakima, Mali, il va très mal. Monsieur Mohamed Diko, il n'est pas du tout souhaité d'être candidat ou politicien. Depuis les temps d'ATT, tous les chefs de religieux, ils sont corrompus par le régime de ATT. Le plus pur, c'est le régime de Ibeka. Donc, Mohamed Diko, c'est un homme sage. Ils ont fait tout pour corrompre ce monsieur. Mohamed Diko, moi, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais vu. C'est un original du peuple. Mais tous les Maliens, ils sont avec lui. Parce que les gens ont vu la vérité. Parce que il est celui, au Mali, il ne veut pas que les gens viennent de l'extérieur de le gouverner.
On a bien compris que finalement, Koulibaly, pour vous, Mahmoud Diko représentait une sorte de souveraineté. On se dirige vers le WhatsApp pour lire quelques messages. Un message qui vient des États-Unis, je pense. Alors, j'ai pas le nom, mais la personne écrit ceci. Seul un peuple uni peut se débarrasser des forces étrangères. Les groupes ethniques sont divisés à jamais. L'islam est le seul vecteur qui puisse réunir le peuple malien. C'est pas inintéressant. Et alors on a des messages, mais c'est pas très lisible. On a un auditeur qui nous dit ceci. On accuse des forces étrangères au Mali comme Barkhane et autres, mais que serait devenu le Mali sans ces forces? Tournons plutôt le regard vers le président. Mon cher Tiambel, hein, vous étiez vivement interpellé dans une tribune. Moussa Mara estime que l'ancien Premier ministre estime que nous nous focalisons trop souvent sur les conséquences et manifestations de la crise plutôt que sur ses causes et racines profondes. Alors parmi celles-ci, il cite le séparatisme, l'absence d'État, la corruption. Est-ce que vous partagez cette analyse et quel regard portez-vous aussi toutes finalement ces désinformations, ces doutes, ces suspicions qui règnent dans l'opinion malienne?
Je crois que la crise favorise tout cela, les difficultés, les meurtres, ces personnes qui tombent face à cette situation favorisent tout cela, c'est l'exaspération, c'est le droit de réagir. Et ça, on ne peut pas le contester. Mais il faut préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali, c'est l'état du Mali. Face à une certaine situation, on doit pouvoir se retrouver. Quand l'armée s'engage, le peuple doit être uni. Quand il est question de l'intégrité territoriale, la nation doit être unique. Quand on voit se battre contre des ennemis, notre hymne national le stipule bien. Si l'ennemi découvre son front, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on doit se lever sur les remparts pour se battre. C'est ce que nous devons comprendre tous. L'union sacrée autour du Mali, autour des institutions, par la personnalisation. Le débat politique peut revenir
mais
après.
Est-ce qu'on peut faire l'union sacrée empêche finalement les critiques objectives du pouvoir? C'est bien ça le problème, mon cher Tiambel, non?
Quand on touche du doigt les réalités, le gouvernement est appelé à reconnaître ses erreurs, à se remettre en cause, tout comme la population aussi qui accuse à tort ne peut pas continuer à affaisser son État, à charger l'État. Ce n'est pas une personne qu'on charge ce n'est pas Ibeka qu'on critique quand on charge l'État aujourd'hui. C'est le Mali tout entier. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est notre intégrité, c'est notre souveraineté, c'est notre indépendance qui est en jeu. Et ça, tous les Maliens doivent le comprendre et s'engager dans cette voie-là. Ensuite, la politique policière peut évidemment reprendre son chemin, peut reprendre le cours. Et qui sait demain? Mais ce danger aussi est cette immixtion des religieux sur le champ politique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas leur rôle. Ils peuvent critiquer en tant que société civile, mais rester dans leur rôle. Personne ne leur conteste là. En son temps, quand il s'agissait du code et d'autres affaires, d'accord, mais demander la démission d'un premier ministre, on dépasse les bornes aujourd'hui. Il faut le dire. Même si cela est le champ libre des politiques qui ont le droit de le faire. Il y a une Assemblée nationale qui est là aujourd'hui, qui a le droit de faire de la politique. Les partis politiques sont sur cela. On ne peut pas saboter le dialogue politique au nom de cela. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut aujourd'hui. La paix au Mali est l'affaire de tout le monde. Le monde entier s'est accouru à nos cheveux pour nous aider. Il faut qu'on mérite cette aide, cette assistance, et qu'on se lève tout droit comme nos défenseurs pour sortir le pays de cette situation. Et ça, tout le monde est interpellé depuis le président de l'Afrique au dernier des manières.
Merci. On va retourner, il nous reste quelques minutes au standard, retrouver les auditeurs. On va retrouver Monsieur Diarra. Monsieur Diarra, bonjour.
Bonjour Madame Hartmann. Et merci Tiambel de nous rappeler tous les Maliens. Si l'ennemi découvre son front, au dedans ou au dehors, debout sur le rempart. C'est très important à savoir ça. Et nous sommes dans la démocratie. L'un des principaux acquis de la démocratie, c'est de laisser la liberté d'expression et la liberté de penser à tous et chacun. Mais je demande à ces auditeurs-là qu'ils retirent certains mots. Il ne faut pas qu'ils parlent au nom des Maliens. Quand ils disent les Maliens, c'est nous tous. Dites des Maliens, s'il vous plaît. C'est pas l'avis de Mamoudou Diko d'aujourd'hui, ce n'est pas l'avis de tous les Maliens. C'est l'avis des Maliens qui retirent un peu ces mots-là. Quand monsieur il disait que Ibeka, il est déplacé pour venir ici. D'accord. Il a dit, je suis Hebdo. D'accord. Mais quand vous voyez l'annonce de cette manifestation de Mamoudou Diko et son porte-parole, quand ils ont demandé, Ibeka, tu vas pas entendre, tu vas voir. Ça veut dire que nous allons agresser des institutions. Nous allons agresser même vous particulièrement. Madame, monsieur Malien, les femmes, les hommes du monde, vous voulez que ce président sorte, aller devant ce Mamoudou Diko, qu'on marche ensemble? Mais nous ne sommes pas des malades, s'il vous plaît. Retirez ces mots-là. Ibeka, si Mamoudou Diko veut vraiment le bien du Mali, pourquoi il n'a pas demandé Ibeka, alors nous allons marcher ensemble? Mais toi, tu mets en garde quelqu'un. Tu veux le chasser du pouvoir, tu veux sa tête, tu veux la tête de ces institutions. Tu veux, lendemain, Mamoudou Diko sort, quand j'entends ça, je veux faire un, j'ai pas l'habitude de faire un vidéo, mais je veux faire un vidéo là. Mamoudou Diko va y ressortir, de sorte, un autre mot, que Ibeka devrait être devant, la première personne. Bien sûr, mais toi, tu l'as menacé à mort. Mais il faut arrêter un peu, Mamoudou Diko. Moi, c'est fini, là.
Bon. Ouais, ouais, voilà. Ouais, Diarra, on a bien compris. Vous n'étiez pas content, d'ailleurs.
Non.
Contre, finalement, Mamoudou Diko. Hein. Vous vous dites, parce finalement, il y a de l'instrumentalisation. C'est bien ça.
Il y a une instrumentalisation. Parce que, quand Sarko disait que Mali est plus, trois fois plus grand que la France, pour moi, dans mon analyse, ça veut dire qu'il faut les diviser en trois. Je sais bien que le Royaume Machina, là, c'est Mamoudou, il a le volant. Mais il faut conduire Mamoudou Diko. La relation entre Mamoudou Diko et Yaga Agali, pourquoi Mamoudou Diko ne sortait pas le nom de Yaga Agali
et on arrive à la fin de l'émission et vous touchez d'un point. Et c'est vrai qu'on évoquait il y a quelques temps, hein, voire quelques mois maintenant, des négociations hein, justement entre éventuellement Yaga Agali et Mamoudou Diko. Tiens, Belgimbaya, on arrive à la fin de cette émission. J'ai juste le temps de vous remercier. De vous souhaiter une excellente journée, surtout de rappeler que vous êtes voilà directeur de la publication de La Voix du Mali. Merci Tiambel hein, d'avoir participé à cette émission. Merci à tous. Alors vous étiez nombreux, n'hésitez pas. Continuez le débat sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/journaldesauditeurs. Hein. Vous continuez également à nous envoyer des messages sur WhatsApp. Vous êtes très nombreux, hein, promis, on essaie de vous répondre à tous. Et puis sinon, vous pouvez également nous laisser des messages sur le répondeur au 33 1 55 07 58 05. Restez bien à l'écoute des programmes d'Africa Radio, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.